Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 11 mai 2016. Au sommaire ce soir.
En République démocratique du Congo, une décision de la Cour constitutionnelle ouvre la voie à une prolongation du mandat pour Joseph Kabila.
À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu.
Présence des réfugiés somaliens au Kenya, le gouvernement de Nairobi resserre les taux.
Reportage au Cameroun, chefs traditionnels et imams se réunissent pour lutter efficacement contre Boko Haram.
Ceux-ci seraient très sensibles au discours de Boko Haram du fait de la pauvreté, parce qu'ils n'ont rien et qu'ils se sentent un peu marginalisés.
Violence djihadiste en Irak, des attentats font au moins 86 morts en périphérie de la capitale.
Le tribunal suprême fédéral du Brésil rejette le recours intenté par le gouvernement contre la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, sur laquelle le Sénat devait se prononcer en fin de journée.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat fin 2016 si l'élection présidentielle n'a pas lieu. Ainsi a tranché la Cour constitutionnelle qui répondait à une requête en interprétation déposée par la majorité. Écoutons un extrait de l'arrêt lu par le président de la Cour, Benoît Louamba.
La Cour, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État, affirmé par l'article 69 de la Constitution, l'article 70 alinéa 2 de la Constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu.
Le président de la Cour constitutionnelle, Benoît Louamba, à Kinshasa, et on aura des réactions en seconde partie d'émission.
Toujours en RDC, l'opposant Moïse Katumbi était entendu une nouvelle fois par la justice ce mercredi à Lubumbashi. La police a évacué plusieurs milliers de personnes venues soutenir le candidat à la présidence. Une nouvelle audience est prévue dans deux jours, la troisième cette semaine, Narval Mabila.
Mercredi 11 mai 2016, il est 11h à Lubumbashi, Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l'ex-Grand Katanga, vient répondre à la deuxième audition de l'avocat général de la République, M. Mikobi. Jeunes et vieux, hommes et femmes, politiciens kinois et louchois, tous au rendez-vous, ont marché pour l'accompagner vers le parquet où il y avait un dispositif très imposant d'une centaine de policiers dans un périmètre de 300 mètres. Certaines personnes avaient des écrits « Je suis Moïse » et d'autres scandaient des slogans « Aujourd'hui, Obama doit être au courant ». Moïse Katumbi entre au palais des justices. La foule immense et nerveuse est dispersée par la police à coups de grenades lacrymogènes et quelques balles ont crépité. Et cela sans incident. Moïse Katumbi est auditionné dans le cabinet du procureur général, accompagné de ses avocats. L'audition dure plus de 6 heures. Il quitte à 17h17 au palais des justices. Ses avocats annoncent, par les billets de Maître Mukendi, Maître Mumba et Azarias Rouberoy, la poursuite de l'audition le vendredi 13 mai. Cette fois-là, il y aura confrontation avec d'autres personnes arrêtées se trouvant à Kinshasa. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
À noter également que le numéro 2 de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, David Gressley, est arrivé ce matin à Lubumbashi.
Et cette info de dernière minute de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. Un camion de l'armée malienne a sauté sur une mine dans la région de Gao. Le convoi se trouvait sur l'axe Gossi-Ombori. On dénombre 2 morts et des blessés.
Le Nigeria ne demande pas d'excuses au Premier ministre britannique David Cameron, qui a qualifié le géant africain d'extraordinairement corrompu, mais plutôt le retour d'actifs frauduleux cachés au Royaume-Uni par les Nigérians. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son président Muhammadu Buhari lors d'une conférence anticorruption à Londres. Les détails avec Nani Talani.
Le Premier ministre britannique David Cameron avait plus tôt cette semaine glissé à la reine Elisabeth II que des dirigeants de plusieurs pays extraordinairement corrompus étaient attendus à Londres. Le Nigeria et l'Afghanistan, peut-être les deux pays les plus corrompus du monde, avait-il ajouté. Suite à ces propos qui pourraient paraître offusquants, le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré « Je ne vais pas demander d'excuses à qui que ce soit. Tout ce que je demande, c'est le retour des actifs. » M. Buhari a aussi remercié le Royaume-Uni pour avoir aidé le Nigeria à récupérer des actifs volés, planqués à l'étranger. citant à ce propos le cas de l'ancien gouverneur de l'État pétrolier de Bayelsa, interpellé à Londres en 2005 pour blanchiment d'argent. Mais il a souligné que le rapatriement d'actifs frauduleux est fastidieux, onéreux et chronophage, et a lui-même qualifié la corruption au Nigeria d'hydre à plusieurs têtes.
Et violence contre les forces de l'ordre dans l'État pétrolier de Bayelsa, au sud du Nigeria. 5 policiers ont été tués cette semaine dans une embuscade. Et le même jour, 3 soldats protégeant des installations pétrolières ont péri dans des échanges de tirs avec des rebelles et des pirates. C'est ce qu'ont indiqué des responsables locaux à l'AFP.
En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a été une nouvelle fois arrêté aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé la police locale à la veille de l'investiture du président Yoweri Museveni, réélu en février pour un 5e mandat controversé. Monsieur Besigye a été interpellé alors qu'il saluait des partisans rassemblés dans le centre de son fief, Kampala.
Au Kenya, le gouvernement a décidé de fermer l'immense camp de réfugiés de Dadaab d'ici mai 2017. Ce camp, qui abrite essentiellement des réfugiés somaliens, servirait de sanctuaire aux islamistes armés somaliens Shebab. L'opération coûtera 10 millions de dollars, un montant déjà débloqué par le Kenya. Eric Manirakissa.
C'est le ministre kényan de l'Intérieur qui a annoncé la décision devant la presse. Joseph Gaiseri a invoqué des raisons de sécurité nationale mettant en jeu la sûreté des Kenyans dans un contexte d'activités terroristes et criminelles. Pour réussir cette opération, le Kenya a déboursé 10 millions de dollars sans aucune aide extérieure. Le plan consiste à rapatrier les réfugiés dans leur pays d'origine ou dans des pays tiers pour s'y installer. Les premiers quitteront Dadaab dès novembre pour fermer définitivement le camp d'ici mai 2017. De nombreuses organisations internationales, dont l'OHCR, ont fustigé cette décision. Mais déjà, le gouvernement avait officiellement annoncé la semaine dernière qu'il ne souhaitait plus accueillir de nouveaux réfugiés sur son sol. Le camp de Dadaab, situé à la frontière somalienne, le plus grand camp de réfugiés au monde, accueille environ 344 000 personnes, dont 328 000 Somaliens, selon l'OHCR. Le gouvernement kényan considère que Dadaab est devenu un sanctuaire où les Shebab planifient et mènent des attaques contre les institutions du pays, ses installations et ses citoyens, une accusation jamais étayée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, au moins 94 personnes ont péri aujourd'hui dans des attentats à la bombe. Le plus meurtrier visait un marché d'un quartier chiite au nord de Bagdad. Bilan au moins 64 morts et 82 blessés, selon l'AFP. Le groupe État islamique a immédiatement revendiqué la responsabilité de cet attentat, disant qu'il a été mené par un kamikaze, ce que démentent les responsables irakiens. Un peu plus tard, une explosion au nord-ouest de la capitale a tué 17 personnes et blessé 33 autres. La cible, un poste de police du secteur de Qasimiyah. Et dans l'ouest, 13 personnes sont mortes et au moins 20 autres blessés dans le district de Jamea.
La part du territoire irakien sous contrôle du groupe djihadiste État islamique est passée de 40% à pas plus de 14%. C'est ce qu'indiquait aujourd'hui un porte-parole du gouvernement, alors que Daesh multiplie ses attaques. Si le groupe djihadiste recule territorialement, il conserve toutefois des places fortes, dont Mossoul, la deuxième ville du pays, et garde la capacité de frapper à Bagdad ou dans les régions majoritairement chiites, en menant des attentats meurtriers comme ceux d'aujourd'hui, qui ont fait une centaine de morts. Les forces irakiennes combattent actuellement l'organisation terroriste sur plusieurs fronts, principalement dans les provinces orientales d'Al-Anbar et à Ninive, dans le nord, dans le but de reprendre les villes de Fallujah et Mossoul.
Au Brésil, le tribunal suprême fédéral a rejeté ce mercredi le recours intenté par le gouvernement contre la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le Sénat a commencé une séance historique pour décider si Mme Rousseff doit être mise à l'écart afin d'être soumise à un procès en destitution pour maquillage des comptes publics. Idriss Fall.
C'est presque un séisme politique, le vote qui doit survenir tard dans la nuit. Une cinquantaine de sénateurs sur 81 se disent favorables à la mise à l'écart de Dilma Rousseff. Sans surprise, elle sera suspendue pendant un délai maximum de 180 jours en attendant le jugement définitif des sénateurs brésiliens. Le dernier jour de mon mandat est le 31 décembre 2018 à marteler Mme Rousseff, promettant de lutter jusqu'au bout par tous les moyens légaux. La présidente brésilienne a présenté hier soir un recours de dernière minute devant le tribunal suprême fédéral demandant d'annuler ce qu'elle considère comme un coup d'État institutionnel sans armes ni baïonnettes. En cas de destitution définitive, elle devrait être remplacée d'ici vendredi par son ancien allié devenu rival, le vice-président Michel Temer, 75 ans, qui a claqué la porte de la coalition à la fin mars. M. Temer assumerait ainsi la présidence jusqu'aux élections générales en 2018.
Présidentielle américaine, environ deux mois avant les conventions des deux principaux partis, les primaires se poursuivent. Hier, on a voté dans le Nebraska et en Virginie occidentale, deux scrutins remportés côté républicain par Donald Trump. Chez les démocrates, le sénateur Bernie Sanders a battu Hillary Clinton en Virginie occidentale par une marge de 15%, mais le système proportionnel ne lui attribue que 16 des 27 délégués en jeu. Prenant la parole dans l'Oregon, Bernie Sanders a promis de continuer la lutte jusqu'à la convention du 25 juillet à Philadelphie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Plus de 500 membres des délégations africaines et internationales sont attendus à Yaoundé, la capitale camerounaise, du 17 au 18 mai prochain. Ce sera dans le cadre de la Conférence économique internationale sur les opportunités d'investissement au Cameroun. Cette conférence a pour objectif de présenter aux hommes d'affaires, industriels, entrepreneurs, décideurs et financiers venus d'Afrique et du monde les opportunités d'investissement au Cameroun. Le Fonds monétaire international recommande un rééquilibrage budgétaire en zone CEMAC où la croissance devrait rester en dessous de 2% si l'on s'en tient au rapport d'une de ses équipes qui vient d'achever une mission à Libreville et à Yaoundé. Cette mission a par ailleurs invité les autorités des pays de la zone CEMAC à ralentir le rythme d'accumulation de la dette afin de maintenir la viabilité de la région à moyen terme et à privilégier les emprunts concessionnels et les sources intérieures de financement. Un chocolat bio, équitable, 100% togolais, qui n'a pas besoin d'être conservé au frais et qui peut être vendu sur les étals des marchés du pays, c'est le pari audacieux lancé par la coopérative Choco Togo que dirige Komi Akboku et dont les tablettes de chocolat sont désormais vendues 1000 francs CFA dans les boutiques.
Tout de suite à la page sport avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
La FIFA suspend la fédération du Bénin.
Le conseil de la FIFA réuni à Mexico a décidé de suspendre avec effet immédiat la fédération béninoise de football à la suite de l'annulation du congrès électif de la FBF. Le mois dernier, un tribunal local avait décidé d'annuler le congrès électif de la FBF, initialement prévu fin avril. Le congrès de la FIFA qui se tient vendredi à Mexico devra également confirmer la suspension déjà en vigueur des fédérations d'Indonésie et du Koweït.
Le footballeur Patrick Ekeng souffrait de problèmes cardiaques.
Oui, le milieu de terrain camerounais décédé brutalement après un malaise vendredi en plein match à Bucarest souffrait de ses problèmes cardiaques. Le milieu de terrain du club du Dynamo Bucarest souffrait d'une cardiomégalie, c'est-à-dire qu'il avait un cœur volumineux. C'est ce que rapporte l'Institut médico-légal de Bucarest. Le Dynamo Bucarest qui a décidé de retirer de l'équipe le maillot avec le numéro 14 que portait Patrick Ekeng.
À nos pédales, Tour du Bénin. Première étape ce soir.
Le cycliste ivoirien Bassirou Conté est arrivé premier lors de cette première étape du 13e tour du Bénin, courue entre Parakou et Savé. Elle était longue de 160 km. Bassirou Conté premier. Le deuxième, Sten Van Couter, un Belge. Et puis le Togolais, Akanga Raouf.
Alors, parlons basket, championnat NBA.
Et oui, Stephen Curry, superstar, le joueur de Golden State, a été désigné meilleur joueur MVP de la saison 2015-2016 de la NBA pour la deuxième année consécutive et surtout un vote à l'unanimité. C'est une première dans l'histoire. Et puis rapidement, vous donnez le résultat du seul match de la soirée, le match numéro 5 dans la conférence Ouest entre Oklahoma City et San Antonio. Victoire d'Oklahoma City 95-91.
Oui, Oklahoma mène 3-2. Mauvaise nouvelle pour mon équipe préférée. Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgan Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour.
Première escale, la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se représenter, pourra rester en fonction au-delà du terme de son mandat si l'élection présidentielle, censée avoir lieu cette année, n'a pas lieu, selon un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Sur VOA Afrique, l'opposant Vital Kamerhe parle d'une révision constitutionnelle déguisée et d'un référendum qui ne dit pas son nom. Nicolas Pineau a joint le leader de l'Union pour la nation congolaise.
La Cour constitutionnelle n'a pas pour mission de réviser la Constitution, puisque l'arrêt de la Cour constitutionnelle aujourd'hui s'apparente clairement à une révision constitutionnelle déguisée, à un référendum qui ne dit pas son nom. 9 juges de la Cour constitutionnelle se sont arrogés le pouvoir de tout un peuple, puisqu'il s'agit d'un article qui ne se trouve pas dans la Constitution. La Constitution est très claire à son article 70, alinéa 1er. Le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Ça signifie maximum 10 ans. On n'a pas dit qu'il y avait une instance au-dessus de la Constitution qui pouvait donner au président Kabila ou tout autre président, c'est impersonnel, un jour de plus.
Aujourd'hui, qu'entendez-vous faire concernant cette décision ?
Non, nous disons d'abord que cette Cour vient elle-même dessiner son arrêt de mort. Elle est disqualifiée. Nous allons nous réunir, je ne peux pas prédire les actions de l'ensemble de l'opposition. Vous n'avez pas la prétention, mais nous allons nous réunir incessamment. Et croyez-moi que nous n'allons pas croiser les bras. Ça va nous permettre de mobiliser notre peuple, puisque c'est lui qui doit donner les pouvoirs, c'est lui qui l'arrache. Et c'est lui qui doit veiller à sa constitution. C'est ce peuple qui doit prendre son destin entre ses mains. C'est pourquoi, il y a 2 semaines, j'ai fait une déclaration à la presse pour appeler à l'éveil de la conscience de l'élite politique congolaise et ne pas se laisser distraire par des épiphénomènes. Parce que nous avions là, en chantier, un événement qui allait bouleverser toute la donne politique. Et voilà, c'est arrivé.
Aujourd'hui, quel est votre message pour le président Joseph Kabila qui n'a toujours pas dévoilé ses intentions pour 2016?
Non, je voudrais dire au président Kabila de se ressaisir. On est en train de lui creuser une belle tombe, et y compris par son entourage et par la Cour constitutionnelle. Mais ceci dit, il est président de la République et il veille au fonctionnement harmonieux de toutes les institutions, conformément à l'article 69 de la Constitution, qui laisse faire cette Cour aller au-delà des missions qui lui sont dévolues par la Constitution, et lui-même et la Cour sont passibles des hautes trahisons dans notre pays.
Que dites-vous aux Congolais qui nous écoutent ?
Au peuple congolais, je dois dire, ils doivent se mobiliser de la même façon qu'ils se mobilisent quand il y a d'autres événements de réjouissance populaire ou de deuil. Mais ici, il s'agit de leur destin. Ce peuple doit comprendre qu'il n'y a personne qui viendra assumer ses destins à sa place. Quand nous disons, nous, de l'opposition, que nous nous mettons à l'avant-plan, pour que le peuple voit le chemin, la lumière d'un destin glorieux, avec l'espoir qui va poindre à l'horizon, ce peuple doit nous faire confiance et s'élever et marcher pour arracher sa vraie indépendance qui lui a été confisquée cette fois-ci par ses propres dirigeants après la colonisation.
Voilà, c'était Vital Kamerhe, joint à Kinshasa. Et ne manquez pas le call-in show de 19h temps universel sur la RDC avec Idrissa Seydoudia.
Dans Washington Forum cette semaine, la République démocratique du Congo et le bras de fer entre la société civile qui veut empêcher Joseph Kabila de briguer un troisième mandat et le pouvoir. Climat tendu aussi avec l'opposition et la récente audition devant la justice de Moïse Katumbi. À quand la tenue d'élections ? Quelles seraient les conséquences d'un report ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Cap sur la RCA, le sous-préfet et le maire de Boda ainsi qu'un pasteur de cette localité enlevé depuis 10 mois dans l'ouest du pays par des hommes armés non identifiés se trouvent toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Ces derniers donnent 3 jours à compter d'hier mardi 10 mai pour exécuter les otages. L'ultimatum est lancé aux nouvelles autorités centrafricaines ainsi qu'aux parents, comme le rapporte le pasteur Flavien Bolobo, coordonnateur des églises apostoliques. Il est joint par Félix Yepassis Zembro.
C'est depuis hier, environ vers 7h30, que nos frères qui sont dans la brousse m'ont appelé pour me dire que voilà, ça fait aujourd'hui 10 mois. Ça fait 10 mois depuis le temps de la présidente de transition qui était passée. Ils avaient reçu un vœu qui est jusque-là non réalisé. Et voilà qu'ils sont maintenant à l'époque du nouveau président, mais le nouveau président ne fait aucun cas de leurs soucis, quoi. Donc c'est pourquoi ils ont demandé aux frères qu'ils ont kidnappés pour qu'ils puissent appeler leur famille, pour leur signaler que voilà, comme ça n'est ici, ça fait aujourd'hui 10 mois, il n'y a pas de suite, il n'y a pas quelque chose. Alors, d'ici 3 jours, ils vont les exécuter. Donc, c'est la nouvelle que j'ai reçue hier.
Qui sont ces hommes, pasteur? Qui sont-ils, ces ravisseurs?
Ces ravisseurs, selon les sources qui nous parviennent, disent que ce sont des éléments de Démafoot. C'est ce qu'ils disent, les éléments de Démafoot.
Mais quelles sont leurs revendications?
Bien, en ce qui concerne leurs revendications, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais le gouvernement de la transition, c'est eux qui connaissent les revendications de nos frères là. Mais si eux, à leur niveau, si nous signifions leurs revendications, je crois que je suis à mesure de vous dire que voilà, leurs revendications, c'est ça.
Et que disent les autorités? Sont-elles au courant de cet ultimatum?
Les autorités sont au courant de cet ultimatum parce que ça fait depuis hier que nous avons essayé de toucher de gauche à droite afin qu'il y ait quand même un gré de cause pour que nos frères qui sont encore entre les mains de ces ravisseurs ne puissent pas leur faire du mal. Donc, jusque-là, on attend toujours, nous sommes patients pour voir ce que le gouvernement va faire.
Et vous, pasteur, personnellement, vous craignez pour la vie de ces 3 otages?
Oui, ce sont les responsables. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils sont les responsables. Et des responsables comme ça, si de pareilles choses leur arrivent, je crois que c'est la famille sera en deuil. Donc on ne souhaitait pas, mais de notre côté, nous sommes en train de prier pour voir ce que Dieu peut faire.
Pasteur Flavien Bolibo, coordonnateur des églises apostoliques de Centrafrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Cap sur le Cameroun, des chefs traditionnels et des imams étaient réunis à Yaoundé pour examiner comment lutter efficacement contre le groupe terroriste Boko Haram. La rencontre s'est tenue alors que l'on soupçonne des membres de Boko Haram d'avoir infiltré le Cameroun en passant justement par des chefs traditionnels et des imams. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Oh Allah, nous te prions et te demandons d'éradiquer les sectes Boko Haram de notre pays.
Parmi les clergés, Abdurrahman Ousmane, guide spirituel de Kerawa, ancien otage du groupe Boko Haram, explique qu'il y a des fidèles musulmans camerounais pris en otage par Boko Haram.
Dès qu'on vous amène, on vous hypnotise et on commence à vous donner au moins peut-être des drogues et tout ça là. On te prend en otage, c'est pour tout juste aller te manipuler, sinon tu ne peux pas accepter toi-même étant quelque part un chef traditionnel parce qu'on va te donner de l'argent et tu vois comment on tue tes gens. Comment tu peux accepter ça? Tu ne peux pas accepter.
Selon lui, de retour au Cameroun après leur libération, ces fidèles camerounais recrutent des jeunes. Elle leur propose une somme de $500.
Quand ils viennent seulement comme ça, ils disent, bon, ben, venez les enfants, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez rien à faire? Ils disent, oui, on n'a rien à faire. Venez, on va vous donner au moins de l'argent. Vous allez être des soldats. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup d'argent. Et finalement, vous voyez le résultat.
Le Conseil des dignitaires musulmans et des leaders traditionnels a invité ses chefs de communauté et les clergés pour examiner des moyens pour arrêter l'infiltration de Boko Haram au Cameroun. Moussa Assabé, l'un des membres de dit conseil, a invité les autorités traditionnelles et les leaders musulmans de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre et les autorités publiques. Selon lui, la pauvreté et le chômage sont les principales causes de recrutement de ces jeunes par Boko Haram.
Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi même les populations locales du fait du manque. Parce qu'ils n'ont rien et qu'ils se sentent un peu marginalisés au sein de la société. Ils pourraient être très sensibles au discours de Boko Haram. S'il a 10 enfants et qu'on lui propose 5 millions de francs pour qu'un seul de ses enfants ait placé les bombes, je pense qu'il serait prêt à envoyer un de ses enfants aller mourir parce qu'il prendrait les 5 millions pour prendre soin des autres. Voilà comment est-ce que les populations locales pourraient réfléchir.
La semaine dernière, le chef de l'État camerounais Paul Biya, en visite au Nigeria, a discuté avec son homologue Mohamedou Buhari pour mettre fin à cette activité barbare. Depuis 4 mois, Boko Haram n'a pas réussi une attaque massive dans les deux pays. Une indication que leur force de frappe a diminué. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, un ingénieur a monté une start-up qui fabrique un savon repoussant les moustiques, vecteur du paludisme. Un projet mené à bien depuis 2013 et dont la commercialisation devrait se faire d'ici 2017. Maëlys Hegel a joint le fondateur de la start-up Faso Soap, Gérard Niondiko.
C'est pas un savon qui soigne. Ça permet de prévenir, d'éviter de contracter le paludisme en éloignant les moustiques. On a vu qu'en Afrique, en général, le savon, c'est l'une des seuls produits que tu peux retrouver dans plus de 95% des ménages. Et même les ménages les plus pauvres, ils utilisent le savon. Alors que le paludisme est un mal du siècle. En Afrique subsaharienne, chaque fois, ça tue des gens. Moi-même, j'ai été victime du paludisme. J'ai des amis qui ont décédé à cause du paludisme. C'est un problème réel et on s'était dit, si on arrive à intégrer la prévention dans un produit qui est accessible, qui ne demande pas de changement d'habitude, ça pourra mieux combattre ce fléau. C'est pourquoi nous, on a pensé effectivement à faire un savon. Une fois que la personne se lave avec le savon, ça permet de protéger contre les piqûres de moustiques. Et le problème aussi ici, chez nous, c'est que les gens, ils ont difficulté de changement d'habitude. On constate qu'il y a des gens qui ont même des moustiquaires à la maison, mais qui ne les utilisent pas parce que ça ne rentre pas dans les habitudes. Mais le savon, ça ne demande pas de changement d'habitude, ça peut mieux s'intégrer dans le quotidien de la population.
Quelles sont les prochaines étapes pour ce savon? Quand est-ce que va commencer la commercialisation et à quel prix allez-vous vendre ces savons?
Depuis 2013, on a travaillé sur le développement des prototypes de ce savon, mais il fallait faire tout un travail de recherche en amont pour la validation scientifique, réaliser des tests d'efficacité même dans des laboratoires spécialisés. On compte finaliser la recherche et développement de ce savon d'ici fin de l'année pour pouvoir commencer à lancer la production, la diffusion en 2017.
Sans aller trop loin dans les explications, comment ça marche chimiquement parlant?
Le savon contient des huiles essentielles qui sont répulsives contre les moustiques et la personne se lave avec le savon et ça va laisser toute une film sur la peau et l'odeur va être diffusée sur le long terme. Notre objectif, c'est d'atteindre 6 heures de protection, étant donné que les moustiques commencent à transmettre le paludisme le soir et on veut protéger au moins les gens avant qu'ils aillent dormir dans les moustiquaires. C'est pourquoi notre objectif, on veut atteindre au minimum 6 heures de protection.
Votre objectif à long terme, c'est de commercialiser ce produit dans un petit peu tous les pays d'Afrique.
Nous, on projette de sauver d'ici 2018 5000 vies du paludisme en distribuant notre savon dans les 6 pays les plus touchés par le paludisme. On va travailler avec tous les partenaires qui soutiennent cette cause pour pouvoir toucher toute cette population vulnérable.
Gérard Niondiko, fondateur de la start-up Faso Soap à Ouagadougou, au Burkina Faso. Léonard Sagnoz s'en souvient, vous vous en souvenez aussi, Bob Marley. Il nous a laissé, c'était il y a 35 ans.
La fin de cette édition, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnoz, à la console Joe Gill, présentation Morgane Gaillec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.